Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Oh, je pense qu'on peut laisser la porte ouverte, ne serait-ce que pour avoir les rayons du soleil, parce que les forteresses médiévales, c'est bien, mais ça suppose qu'on se prive des rayons du soleil pendant un moment. Merci d'être là à cette rencontre féminine. Je dois dire qu'on est en très bonne compagnie et je me réjouis de la discussion à venir. Alors, les trois filles qui ont été réunies, enfin qui sont réunies sur ce même plateau littéraire sous un prétexte tout à fait fallacieux, voilà, ben, il suffit d'être trois femmes écrivaines françaises, mais par contre elles ont écrit des comédies dites caustiques, et ça effectivement, ben, je me réjouis de voir qu'elles nous expliquent en quoi elles ont écrit à la fois des comédies, mais qui ont voilà, ce côté caustique, en quoi elles se moquent de la société, en quoi elles ont de l'humour, mais de l'humour très noir, et en quoi on a autant envie de rire que de pleurer en les lisant. Alors, Émilie de Turckheim, en commençant à votre gauche, signe Popcorn Melody chez Héloïse d'Ormesson, et puis deux auteurs, Belfond, dont c'est le deuxième roman pour chacune, même si ce n'est pas le deuxième livre, qu'elles ont toutes deux une carrière dans le monde littéraire déjà bien importante. Alors, à qui on a mis... Oui, je regarde si les noms correspondent bien, mais c'est bon. Alors, Jessica N. Nelson. Vous expliquerez le L ? Vous voulez l'expliquer ?
Oh, bah c'est tout simple, en fait, c'est mes origines américaines, donc c'est une coquetterie.
C'est voilà. Une coquetterie américaine, mais c'est exactement. Super, parce que du coup, ça interpelle.
Vous n'êtes pas obligé de dire Jessica L. Nelson.
D'accord, alors Jessica.
C'est plus simple.
Jessica signe « Tandis que je me dénude », donc chez Belfond, et puis à sa gauche, Elise Tilroy. Tilroy, voilà, exactement. Simplicité du coup de massue, c'est aussi chez Belfond. Alors, comme évidemment dans ce genre de rendez-vous, on ne sait jamais qui a déjà lu les livres, qui sait de quoi on va parler, je pose le décor en quelques mots, évidemment en espérant que tous ceux et celles qui n'ont pas lu les trois livres se précipitent après ce rendez-vous sous la tente pour l'acquérir et le faire signer. Si elles sont là, c'est que leur livre est bien, et vraiment j'ai eu un plaisir fou à lire les trois. Alors, Popcorn Melody d'Emilie Turckheim, c'est son huitième roman. Ça raconte l'histoire de Tom Elliott. C'est un jeune homme né d'une mère indienne qui tient une toute petite épicerie dans une ville minuscule posée au milieu d'un désert, une sorte de grand désert de pierre, peut-être dans le Midwest. Et puis, alors, il a hérité de la boutique de barbier de son père, et puis il écrit des haïkus. Et puis, le jour où un supermarché flambant neuf, énorme, s'installe en face de son magasin. Évidemment, c'est la fin de son épicerie. Mais enfin, il saura se réinventer une vie, comme on va le voir tout à l'heure. Alors c'est drôle, hein, il y a une usine de pop-corn, mais c'est aussi très triste. Il est question de la faim des Indiens, d'une civilisation qu'on a détruite, de la mort des petits villages, et puis du cynisme de l'industrie de masse. Voilà. Et alors Jessica Nelson, Tandis que je me dénude, on n'a pas les livres, hein. Si, voilà, celui-là, très belle couverture d'ailleurs de Belfond, Tandis que je me dénude, où on voit effectivement un écran de télévision comme ça un peu éclaté, parce que ça parle de ça, ça raconte une émission télé, on plonge dans une émission télé auquel a été invitée une jeune romancière, dont c'est le premier roman, qui s'appelle Angie Rivière, qui a écrit un roman qui s'appelle Bébé de brume. Puis elle se retrouve sur un plateau télé qui pourrait être un peu l'émission de Ruquier, par exemple, On n'est pas couché. Autour d'elle, il y a un politicien, d'autres stars. Et puis, page après page, Jessica raconte par le menu l'enfer que vit cette jeune romancière qui se sent agressée par la caméra, qui est très intrusive. Et elle a l'impression, comme le dit le titre, que petit à petit, elle se dénude sur ce plateau télé, tout en évidemment devant garder un sourire de façade, et en continuant à faire la promotion de son livre. Et puis, Simplicité du coup de massue, c'est un titre très réussi, très drôle. Élise raconte comment une mère de famille bourgeoise, bon, assez plan-plan finalement, un mari, belle voiture, belle maison, beaux enfants, se transforme en Barbatruc. Barbatruc, c'est une égérie de la contre-culture. C'est une héroïne de la contestation qui se retrouve à monter sur les barricades pour dénoncer la publicité à outrance, la société de consommation, la manière dont tout le monde observe tout le monde. Mais enfin, elle vous en parlera encore mieux. Mais voilà. Mais c'est une même femme, évidemment, c'est cette grande bourgeoise qui, cachée sous un fichu et des lunettes noires, vit une vie cachée de sa famille, effectivement. Et comment la grande bourgeoise, la bourgeoise que cette femme de famille, cette mère de famille est, tout à coup se réinvente une vie. Et on voit qu'au début, qu'est-ce qui déclenche ça ? Eh bien, elle a perdu sa sœur jumelle. Et c'est sans doute une manière de faire son deuil. Émilie, Jessica et Élise, comment est-ce qu'on arrive à allier à la fois un ton drôle, parce que c'est des comédies, c'est vrai, vos livres, à degrés divers, mais un fond absolument sérieux. Élise, peut-être racontez-moi comment on part de cette jeune, cette femme bourgeoise, mère de famille, qui apprend le décès de sa sœur. Donc évidemment, c'est dramatique.
C'est affreux.
C'est affreux.
C'est affreux, elle ne s'en remet pas.
Ouais.
Et c'est ça le problème. Enfin, là, c'est un rapport à la réalité qui est trop difficile pour elle. Et donc, ça ne rentre pas dans sa base de données. On va dire, on est face à un bug. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rentre dans le déni, c'est-à-dire, pour continuer sa vie toute tranquille d'un côté, elle est obligée de s'inventer un double qui va servir d'exutoire à sa colère. Alors, un double, bien entendu, clandestin, bien entendu, déguisé. Enfin, un vrai double qui n'a rien à voir avec elle, qu'on ne pourrait pas relier. Et le problème, c'est qu'elle est prise en main par un militant altermondialiste qui va l'emmener dans des mouvements et qui va se servir de cette colère pour la mettre au service de multiples causes, puisque maintenant, la militance est quand même quelque chose d'assez morcelé. Alors, il faut que je vous dise que quand même, c'est documenté. C'est un roman, j'ai fréquenté et à la fois de la police et des activistes pour décrire une clandestinité qui soit possible, qui soit vraie, qui soit... Et donc voilà, cette femme, pour pouvoir tenir en clé de voûte de sa famille et sans rien bouger, et d'ailleurs c'est étonnant, elle passe même pas le stade du chagrin, elle est bloquée dans sa colère, et donc pour pouvoir survivre à cette colère, eh ben... c'est ce double qui sert d'exutoire. Alors le problème, c'est que ça va très très bien marcher, parce qu'après il faut rigoler.
Ça va la dépasser, ça va ça tourne à la farce.
Totalement dépasser, ça va arriver jusque dans les hautes sphères politiques. Et ça c'est la moitié du livre. Ouais. Après, je la mets dans l'embarras au maximum de ce qui peut lui arriver.
Mais voilà. Ce qui est l'intéressant, c'est la manière dont tout commence, parce que c'est extrêmement plausible et on a, je pense, tous et sans doute vous-même ressenti la même colère d'elle tout au début, parce que la première chose, mais vraiment qui la met en rage, c'est qu'au lendemain, enfin quelques heures après le décès de sa sœur, elle reçoit un mail, un coup de fil, et puis ensuite, voilà, d'une entreprise de pompes funèbres.
Qui propose ses services,
voilà.
Différentes formules commerciales.
Vous avez eu un deuil, on va s'occuper de tout, et elle dit, mais comment sont-ils au courant? Et elle est scandalisée. J'imagine, le vécu et
c'est... Ça m'est arrivé, mais pas du tout avec quelque chose d'aussi sacré que le deuil, parce que je pense que c'est sacré. Ça m'est arrivé, en déménageant, tout à coup, quelqu'un était au courant de tout et j'ai reçu des coups de fil. Voulez-vous une protection ou quelque chose? Et je suis tombée de l'armoire et j'ai été très en colère. Très en colère. C'était la pulsion de départ, c'était cette colère. Et après,
une colère, l'impression qu'on profite de vous, qu'on vous observe, que tout le monde sait tout.
Que je suis devenue un produit, que le... Ah, mais alors je parle très très fort.
Mais oui.
Ça, je vais me calmer. Et que cette espèce de facilité qu'on a à nous transformer en produits, en vendant nos données personnelles, par exemple, c'est commercial, ça coûte extrême, ça rapporte énormément d'argent, on le sait maintenant. Et donc elle, tout à coup, elle s'en aperçoit. Elle rentrait très très bien dans cette vie qui lui convenait, parce qu'elle fait partie, elle est du bon côté du manche. Hein. Elle a tout ce qu'elle veut, elle a une vie qui va très très bien. Mais malgré tout, cette agression l'a fait sortir de ce confort, et c'est suffisamment violent pour elle pour qu'elle puisse remettre en question tout ce qu'elle a.
Voilà. Ce que vous voulez dire avec ce roman, c'est qu'en chaque mère de famille sommeille une héroïne révoltée ?
Oui.
C'est un appel. C'est un constat ou un appel ?
Les deux. Non, non. Oui. C'est, en chaque être humain, il y a quelqu'un qui pense et il y a quelqu'un qui peut. Alors, en fait, Et puis souvent, les gens se disent oui, mais qu'est-ce que je vais changer à moi tout seul ? Ça changera rien. Quand il y a quelque chose qui nous heurte ou qui nous gratte un peu, et il y en a souvent, on se dit on laisse faire. Et ce que je voulais raconter, c'était que 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et que parfois, tout ça est quand même sur le ton de la comédie. Oui. Parce qu'il y arrive quand même beaucoup de bricoles.
Ah, c'est burlesque, c'est cocasse. Mais justement, Émilie de Turckheim, de quelle colère ou émotion est partie Popcorn Melody ? Vous plongez au fond des États-Unis, au fond d'un désert de pierre. Puis en même temps, il y a ce petit village où il se passe des choses effectivement très, très, très burlesques et très tragiques et très drôles et très tristes en même temps. Est-ce qu'il y a au début, il y a la même colère ?
Oui, tout à fait. Je me retrouve beaucoup là-dedans.
Quelle
idée. C'est ce petit gérant de supermarché. Il appelle ça un supermarché. C'est une minuscule épicerie, quoi. C'est une petite supérette. Et à dessein, il ne vend rien. Il fait exprès. Au départ, quand il a commencé à avoir des clients, les clients lui réclamaient un nouveau produit, un autre. Et il a réalisé que plus il satisfaisait à leurs demandes, que plus il y avait de nouveaux produits, plus les gens étaient insatisfaits et voulaient des choses encore un petit peu plus un peu différente, un peu plus sophistiquée, un peu plus confortable. Bon, alors il s'est dit, ok, il s'est souvenu de son prof à la fac qu'il adorait, qui était un adorateur de haïku, vous savez, c'est une petite forme de poésie japonaise très courte. Il s'est souvenu que ce prof lui disait que dans la vie, un certain niveau de manque était une bénédiction. Et il se dit, mes clients, ils vont jamais être bénis là, si je leur en donne toujours plus. Donc je leur file plus rien, quoi. Donc il appelle ça la trilogie du bonheur. Il y a à peine de quoi bouffer, se laver et, très important, à Chelawick, donc c'est le nom que j'ai donné à cette petite ville du Kansas, je ne dis pas que c'est le Kansas, mais on le devine, tuer les mouches, troisième plan de la trilogie du bonheur. Il y a énormément de mouches à Chelawick. Et cette petite épicerie, c'est, disons, ce qui m'a toujours touchée dans la vie commerçante, on va dire. J'ai un côté très, très kitsch pour ça de village. Je suis très bavarde avec mon boucher, ma boulangère, le bon. Et lui, c'est ce petit centre de convivialité de son village. Il a gardé le fauteuil de barbier de son père, où tout le monde a pris l'habitude de venir s'asseoir, se confier, parler de son enfance, ses soucis. Bon. Et les gens n'ont rien d'intéressant à raconter, parce qu'il n'y a rien à faire à Chelawick. Aussi loin qu'on regarde, il y a un désert de pierres noires à perte de vue. Tout le monde bosse à l'usine de pop-corn, toutes les vies se ressemblent. Mais avec cet esprit poétique qu'il a, cette façon de savoir écouter, les gens lui font confiance. Il arrive à rendre assez passionnantes des confidences qui ne le sont pas. Mais il y a vraiment une vie, il y a vraiment quelque chose d'humain, d'intense qui se passe là. Et il écrit ces petits haïkus japonais de trois lignes sur chaque client. Et donc il a des annuaires téléphoniques dans lesquels il note ça à chaque fois que quelqu'un rentre dans l'épicerie. Ce qui fait une espèce de grand roman, de grands recensements poétiques de tout le village.
Il est votre bras armé pour lutter contre la société de consommation quelque
Alors,
part.
Il a lutté contre rien parce qu'il est en situation de monopole et il se dit que forcément c'est des valeurs si chouettes, c'est si convivial et tout, la vie va éternellement durer avec cette joie et cette bonne humeur. Et quand pousse cet hypermarché totalement irréel, extrêmement moderne, sophistiqué, climatisé, ce qui est un drame pour lui parce qu'on crève de chaud chez lui et rien que pour ça, tous les petits vieux, tout le monde va se mettre au frais au rayon surgelé du supermarché et il perd du jour au lendemain tous ses clients et cette situation m'amuse ce qui m'intéressait c'est la séduction de la société de consommation est immense et ce désir est un vrai désir et l'envie qu'on a de consommer elle n'est pas futile, elle remplit des vides et c'est pas pour rien que tout le monde lui tourne le dos et lui son combat est perdu d'avance parce que c'est un très mauvais commerçant, il a jamais essayé, le combat est perdu d'avance, il se bat pas, il le mène à un autre niveau son combat quoi. C'est vraiment un combat
Presque en amont, il essaye de comprendre ce qui pousse les gens à vouloir aller là où c'est où il y a pléthore d'offres, où il fait frais, etc.
Oui, puis surtout lui, c'est un combat, c'est philosophique. C'est-à-dire, il chérit vraiment d'autres valeurs et il est très blessé au fond de lui de voir que tout ce qui était important pour lui, ces valeurs de simplicité, de sobriété, de convivialité, se font écraser en une seconde. Alors évidemment, c'est traité de façon très très caustique et très ironique, mais il est quand même désespéré. Il a plus d'argent, il a plus de clients. Comme il a plus de clients, la source de ses petits poèmes, c'est entièrement tari parce que plus personne ne passe le pas de sa porte. Et donc ça va très loin. Il a des idées très très sombres. Il pense à quitter ce monde. Et au tout début du roman, un Indien débarque dans sa petite supérette. C'est la scène inaugurale du roman. Et sous la menace d'un couteau, lui réclame des paroles de chansons. Et cet événement malheureux et un peu violent et comique et incompréhensible de début de roman va être son salut, quoi. Il va être sauvé par ses paroles de chanson. Je vous dis pas de quelle manière, mais voilà, ça m'amusait vraiment de mettre face à face pas vraiment l'image mièvre de un petit endroit sympathique versus un endroit qui est objectivement horrible, mais de montrer que ces valeurs, les siennes, de contemplation notamment, observer les gens, leur regard, leur parler, regarder le désert, c'est le contraire d'un paradis, mais c'est ce genre de décor où on est tellement fier d'être lié à un paysage compliqué, en fait, qu'on met du temps à apprivoiser. On se dit, il aura fallu tout ce temps de contemplation pour aimer cet endroit, ces gens simples, à la hauteur de leur caractère mystérieux, pas très expansif, et bon. Ça, c'est facilement évacué par la facilité d'accès de toute cette vie de consommation, de produits faciles, de tout le rêve des vies qui manquent dans les produits. Voilà, quel genre de ça se substitue à quel rêve, en fait, ces produits qu'on achète. C'est jamais pour un produit, on n'achète pas un objet pour un objet, on achète pour le manque que ça vient combler. Et voilà, ça m'intéressait de les mettre face à face et de se rendre compte qu'au fond, c'est un vrai travail quotidien et c'est au forceps qu'on peut arriver à profiter de cette simplicité et de cette joie d'observation. Moi, je suis quelqu'un de très, très contemplatif. Je suis folle, j'ai un amour des arbres, par exemple, qui fait honte à mes enfants. Je les enlace, je les embrasse, enfin mes enfants, mais les troncs d'arbres aussi. Et plus je vieillis, enfin moi je rajeunis, plus je suis hyper heureuse en fait de l'intensité de ces plaisirs gratuits. Et j'ai des réactions totalement niaises en regardant des fleurs et en me disant ouais. C'est la perfection, c'est ce que m'inspire la littérature en fait. C'est un sentiment d'absolue plénitude qui ne coûte rien, qui demande un effort en fait minimum et qui offre des mondes que ce que nous propose notre société me paraît, enfin bon, ça me paraît disproportionnellement plus grand et plus, voilà, d'une valeur plus merveilleuse.
Donc votre trilogie du bonheur se rapproche beaucoup de celle de votre héros, hein, de quoi manger, de quoi se laver et tuer les mouches.
Alors tuer les mouches, c'est marrant parce que dès le départ, il y avait cette histoire de tuer les mouches et je ne comprenais pas pourquoi ça me revenait de tuer les mouches. Et je me dis, mais ils sont dans le désert, il y a des pierres noires partout autour, souvent il y a des mouches quand il y a des bêtes. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien qui pousse dans ce désert. Même métaphoriquement, il n'y a pas de saison. Il n'y a rien qui repousse, il n'y a même pas le désir d'avoir une autre vie et tout. Je me dis, elles viennent d'où ces mouches? Et à force, en écrivant, parce que j'ai toujours une façon un peu étrange d'écrire, où j'écris très longtemps avant de comprendre quelle histoire je raconte, qui sont les personnages, j'efface tout. Il ne reste pas un mot et je recommence tout. Je fais toujours ça. Là, ça m'a pris 9 mois d'écriture. Je suis presque arrivée à la fin du roman avant de tout recommencer. Et j'ai compris que tout ce désert de pierre noire qui n'existe pas, il n'y a rien qui ressemble à ça dans le Kansas, c'était un cimetière de bisons. Parce que mon héros, il est d'origine Kansa. Les Kansa, c'est un des peuples autochtones amérindiens des Grandes Plaines. Et donc toute sa famille côté maternel a vécu le destin des peuples des Grandes Plaines. Donc la mise dans les réserves, les enfants envoyés dans des internats où les enfants étaient littéralement arrachés à leur famille, envoyés volontairement très loin de leurs réserves, où ils n'avaient pas le droit de parler leur langue, pas le droit de toutes leurs croyances, leurs traditions, tout était écrasé. On échangeait leur prénom indien contre un prénom chrétien. Et au fur et à mesure du roman, on apprend toute cette histoire des Indiens des Plaines à travers l'histoire de la famille de Tom. Et cette espèce d'anéantissement de la culture amérindienne, elle est passée largement par le massacre des bisons dans les Grandes Plaines. Il y a, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois près de 60 millions de bisons qui ont été massacrés. À la fin du 19e, il en restait quelques centaines, donc autant dire plus de quoi renouveler l'espèce. Et le mode de vie des Indiens s'organisait entièrement autour du bison, et de façon très vertueuse. On se nourrissait avec, on se soignait, on se vêtissait. C'est un animal sacré aussi, qui avait un grand rôle dans les cérémonies funéraires. Et oui, j'ai vu ce parallèle entre ce que ce bison apportait, comme tout ça était écologique et vertueux et un tout, quoi, et ce qu'est notre supermarché aujourd'hui, qui est censé nous apporter à peu près l'équivalent, ou en tout cas un centre-ville avec la pharmacie, le machin, là. Et comme tout est plus polluant, comble et en même temps moins réussi. Et voilà, et donc j'ai compris que ce grand désert de pierre, c'était ces colons européens qui ont massacré tous ces bisons, qui ont tué un mode de vie. Et depuis le début, j'avais décrit des petits éclats de quartz, en fait, partout dans le désert. Et c'était très visuel quand j'écrivais. Je voyais ce truc noir, bouillant et qui brillait partout. Et voilà, après, je me disais, c'est vraiment l'espèce de présence des âmes amérindiennes qui restent dans ce désert.
Ouais, bah, le tour de force de votre livre, c'est justement sur ce fond absolument, dans le fond, tragique, d'en faire quelque chose de cocasse, où on rit. Et ça, d'ailleurs, c'est le tour de force de vos trois livres. Jessica Nelson, quel manque vient combler le monde de la télévision, pour rebondir sur quelque chose dont Émilie vient de parler, qu'aujourd'hui, beaucoup de choses viennent combler des manques indirects, tandis que je me dénude se passe entièrement sur un plateau de télévision. Enfin, ensuite, il y a évidemment des flashbacks et des réminiscences de l'écrivaine qui se trouve être comme ça sous les caméras. Mais voilà, quel manque vient combler aujourd'hui la télévision que nous consommons tous et toutes à outrance?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que je pense qu'on y met chacun des choses différentes. Consommer la télévision, c'est alors personnellement, moi, je la consomme pas, alors que j'en fais partie d'une certaine façon puisque je me suis longtemps occupée d'une émission culturelle sur TF1. Mais non, en fait, ce qui m'intéressait en plaçant l'action sur un plateau de télévision, c'est que je trouvais que ça entrait vraiment en résonance avec le monde un peu surexposé et surmédiatisé et dans lequel on vit. Et je trouve que de plus en plus, d'ailleurs, alors c'était les écrans de télévision à une certaine époque, et maintenant c'est davantage les écrans d'ordinateur, d'iPhone, mais on passe notre temps à regarder, à se regarder, à s'exposer, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je trouvais que placer ce roman sur un plateau de télévision, c'était vraiment le bon dispositif à imaginer.
Ouais. Est-ce que c'est né d'une colère, comme le roman d'Élise?
Alors il y a une colère contre un certain type de télévision que je trouve pathétique, que je trouve très misérable. Alors je parle pas de la télévision que moi je connais en profondeur parce que l'émission en question, c'est une émission culturelle et que c'est chouette et que c'est vraiment inviter des écrivains.
Vous avez travaillé avec Michel Field, qui est un journaliste vraiment littéraire.
Oui. C'est un certain type de télévision, mais c'est vraiment pas l'essentiel de la télévision. Et c'est vrai que dans le roman, j'épingle un petit peu toute cette société du spectacle idiot, du divertissement idiot. Je crois que ça peut être assez drôle d'ailleurs parce que voilà, il faut aussi être léger par rapport à ça et le considérer avec un peu de légèreté. Mais voilà, donc différents personnages vont s'exprimer dans le roman puisqu'il y a cette jeune femme qui vient parler de son roman, mais il y a aussi les personnages qui sont sur le plateau, qui vont observer l'action qui se déroule en plateau, et puis il y a ceux qui sont derrière les caméras, qui sont derrière les écrans et qui regardent. Et là, c'était l'occasion de parler peut-être du paradoxe qu'on a tous, qui est d'avoir envie d'exister, d'être dans la lumière, d'être regardé parce qu'on a un besoin d'être aimé, et que être aimé, ça passe aussi par le regard, et puis de la nécessité de savoir se protéger et d'être plutôt là du côté de l'ombre.
C'est vrai que le livre s'appelle « Tandis que je me dénude ». Est-ce que forcément, ça veut dire qu'effectivement, la jeune femme, qui est une écrivaine, donc a priori pas une, elle n'est pas dans l'exhibition, c'est une écrivaine, c'est quelqu'un qui travaille sur l'intériorité, c'est son premier livre, elle a l'impression, elle, de devoir vraiment se déshabiller, se dénuder, elle se sent agressée. En même temps, elle est déjà invitée à la télévision. Finalement, pour une écrivaine, c'est une marque d'attention de la télévision envers le monde littéraire. Qu'est-ce que vous reprochez? Quelle est
C'est pas tellement un reproche que c'est vrai que quand on écrit, et je pense que Élise et Émilie sont relativement d'accord avec moi, quand on écrit, on est dans l'ombre, on est dans un espace-temps qui nous appartient, on est avec des personnages, on est tranquille. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire connaître nos livres, il faut bien passer par un canal. Et c'est vrai qu'une émission de télévision, bah, ça permet de toucher un public. Mais il y a une vraie, presque opposition entre le fait de créer dans la solitude et ensuite de devoir parler de sa création. Et c'est très difficile aussi quand, de dire mon livre est excellent, venez l'acheter, c'est fantastique, de faire la promo.
Oui. Voilà. Mais en quoi est-ce que la télévision, dans le fond, est pire que, par exemple, ce qui peut se passer ici, où certes, c'est déjà une forme, il faut être, on est poussé, il faut y aller, il faut parler de son livre, mais en même temps, en quoi c'est encore pire la télévision, qu'est-ce qui est si terrible?
C'est un livre sur les apparences et sur le regard. Et si je l'ai placé effectivement sur le plateau de télévision, c'est parce que je trouvais que c'était intéressant comme situation, mais ça aurait pu se passer dans un autre contexte. Et effectivement, ce roman, moi j'ai mis 10 ans à l'écrire, parce que ça fait 10 ans que je gamberge sur comment est-ce que je peux parler de la télévision intelligemment, sans en faire une critique abrupte et trop violente. Et donc 10 ans à travailler là-dessus, et du coup j'ai perdu le fil de ma pensée.
Est-ce que je peux intervenir à propos des plateaux?
Oui, interviens.
J'ai l'autorisation. Ça marche?
Si, j'ai retrouvé mon idée.
Ah, pardon, vas-y.
Alors, attends. non, au cours des 10 ans où j'ai tenté d'écrire ce roman, j'avais d'abord essayé un dispositif qui était celui de la salle de classe. Et donc, c'est pour ça qu'il en résulte qu'elle est prof. Mais au départ, j'avais imaginé un professeur dans sa salle de classe. Et qu'est-ce qui se passe autour? Comment est-ce qu'on se regarde les uns les autres? Comment est-ce que le professeur regarde les élèves? Quelle image on renvoie? Quelle image nous est renvoyée? Et pourquoi est-ce que le décalage qu'il y a entre l'image qu'on a de soi-même et l'image que vous renvoient les autres de vous-même, pourquoi est-ce que ce décalage est si difficile à vivre au fond? Et voilà, je te laisse la parole. Ouais.
Alors, en fait, je pense que ce dont tu parles, moi je le ressens aussi quand on tourne. Moteur. Et moteur, il y a une espèce d'espace-temps qui s'ouvre. Et en fait, là, par exemple, on vous parle et quelque part, on vous sent. On voit, on a un retour. Vous êtes avec nous, on est avec vous. Il y a quelque chose qui se crée, comme quand on joue au théâtre. Sur un plateau de théâtre, il y a une énergie qui se met. D'ailleurs, il y a des jours, c'est plus difficile que d'autres. Une énergie qui se met à tourner et qui nous porte, et vous et nous. Quand vous êtes face à une caméra, c'est un œil électronique. Il y a des lumières partout, vous voyez pas de l'autre côté de la caméra. Il y a des gens qui ont des oreillettes, qui se parlent, et quelque chose se passe au-delà de vous, et vous vous sentez piégé. Moi, j'ai l'impression que ton héroïne, je suis dans son livre, il est vachement bien, j'ai lu celui d'Émilie qui est vachement bien aussi. On a l'impression de la poule qui est dans les phares de la voiture. Vous voyez, quand elle est comme ça, et que, il faudrait qu'elle traverse avant que, voilà. Et ben, la caméra fait ça. La caméra, elle vous happe et elle vous rend pas quelque chose. C'est ce que je voulais dire.
La caméra, j'imagine, déforme même, et renvoie une image totalement
complètement
fausse.
Différente de la réalité. Oui, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est, c'est un filtre déformant. Mais encore une fois, je pense que vraiment, il est question ici d'apparence et d'image. Et c'est pour ça que les écrans d'ordinateur, puisqu'il y a un blogueur qui va s'exprimer, il y a des gens qui sont de l'autre côté de la caméra. C'est pour ça qu'il y a autant d'importance attribuée à ces écrans.
Ouais. Moi, ce que j'ai toujours trouvé étonnant, quand on vient de publier un bouquin et qu'on est comme ça en période, on va dire, de promo, pour le dire un peu vulgairement, c'est que sous prétexte qu'on écrit avec des mots, on attend de nous une vraie compétence d'orateur pour savoir parler de son bouquin avec des mots, parce qu'on a l'impression qu'on est dans le même champ. Mais ça n'a tellement rien à voir, c'est quelque chose de presque autistique, l'écriture. On est un peu fou, y a une perte, une sorte de vertige et de perte de pied avec la réalité qui est, je trouve vraiment jouissif dans l'expérience d'écriture, alors qu'il y a quelque chose de comme tu disais, quoi, il y a une espèce de côté jugé parti. En gros, si le fond du discours c'est de dire du bien de son livre, c'est une situation intenable. Moi, il n'y a pas plus en doute et critique de son travail et habité de façon fiévreuse qu'un écrivain qui écrit. Donc, se mettre tout à coup dans une position assez visiblement calme et sereine pour en parler comme d'un objet qu'on aurait lu mais dont on ne serait pas l'auteur. C'est une situation impossible au fond.
En fait, on vous demande d'incarner votre livre après l'avoir écrit. Effectivement, vous devenez des ambassadeurs du livre, vous devez l'incarner et on attend effectivement que vous soyez le reflet de votre livre. J'imagine que ça doit être très difficile à vivre, mais pour vous, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous depuis longtemps, vous avez travaillé dans l'édition, vous avez créé un prix littéraire, vous travaillez encore aujourd'hui dans l'édition. Vous connaissez aussi beaucoup d'écrivains qui vivent ça. Vous êtes aussi une observatrice de ce monde-là.
Ça m'a toujours vraiment perturbée en fait, parce que c'est vrai que on sent toute la difficulté que représente cet exercice de passer de l'ombre à la lumière. Et il y a aussi une notion de perte d'intimité quasiment quand on s'expose ou quand on devient l'ambassadeur de son œuvre en fait. Et ça rejoint une thématique qui m'obsède depuis très longtemps et qui est, est-ce qu'aujourd'hui de plus en plus, est-ce qu'il est possible de parler d'intimité aujourd'hui? Et là j'élargis le champ hein, évidemment, mais je pense à la façon dont on s'expose sur les réseaux sociaux, je pense à toutes les informations qu'on délivre de soi en ligne. Il n'y a pas qu'à la télévision hein, aujourd'hui n'importe qui laisse des traces, et donc ça m'a toujours fort interpellée, et je trouvais que c'était le bon moment d'essayer de pousser un petit peu cette réflexion dans le livre.
Ben, Barbatruc, c'est ça. Le personnage fictif que votre héroïne, femme au foyer, bourgeoise, bien sous tout rapport, tout à coup incarne, et c'est un produit des réseaux sociaux. Il suffit qu'une fois...
Alors c'est là où c'est tordu, c'est qu'à la base, c'est quelqu'un qui est clandestin, donc qui est souterrain, et le coup de génie de son binôme, parce qu'elle a quelqu'un comme qui l'aide, le coup de génie, c'est de se dire, tu es une égérie parfaite, puisque tu es un personnage de fiction, puisque pas du tout identifiable, très glamour, parce que en fait, le jour où elle s'est énervée, qu'on a capturé son image et qu'elle se retrouve en une des journaux par hasard et qu'elle est terrorisée, parce qu'elle, à la base, elle veut pas qu'on fasse le lien entre ce qu'elle est vraiment et son personnage fictif. Le jour où elle se retrouve capturée, lui, il dit « mais on te reconnaît pas, tout va bien ». En revanche, ce que tu viens de créer, c'est un personnage de fiction, glamour, et qui va emporter tout le monde. Et il est vrai qu'elle devient un aimant à caméra, et donc elle attire des fonds, des capitaux, puisque et du coup elle est sollicitée sans arrêt pour représenter des causes les plus diverses. Parce que dès qu'elle apparaît, les dons arrivent sur des associations, la presse est là, le mouvement est médiatisé. Parce que c'est
et la
aussi
police,
ça
effectivement, la recherche, mais la police n'arrive pas à l'identifier, effectivement, puisqu'elle n'apparaît qu'avec des lunettes noires et un foulard Hermès.
J'ai donné beaucoup de fil à retordre à un ami commissaire, parce que je lui disais, voilà, est-ce qu'il serait possible aujourd'hui, parce que je voulais que ce soit plausible, est-ce qu'il serait possible aujourd'hui de ne pas être reconnaissable, justement, quand on sait que les caméras à reconnaissance faciale existent, c'est-à-dire l'écartement des pommettes, l'écartement des yeux, la taille des sourcils et tout. Donc elle avait besoin d'avoir des très grosses lunettes, pas de racines apparentes, elle a des gants, donc pas d'empreintes. Elle tape en général avec son sac à main, donc pas d'empreintes non plus. Et elle ne parle pas parce que la reconnaissance vocale existe aussi. Et là, j'ai vraiment eu beaucoup de travail parce que ça devient difficile et je crois que ça progresse chaque instant, c'est-à-dire que maintenant avec des photos très très pixelisées, on vous reconnaît n'importe qui grâce à Facebook, merci. On sait à qui vous ressemblez et quelle ressemblance est liée à quelle identité, puisque c'est ça qu'il faut relier, eh bien, c'est faisable. Ça y est, on y est.
Oui, mais du coup, votre roman montre plutôt le bon côté des réseaux sociaux, c'est-à-dire
le mouvement de rébellion
sociale auquel elle est à l'origine. Voilà, donc c'est
ça. Ça sert à la fois. Voilà, c'est parce que tout est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire que elle-même, le personnage qu'elle a créé sera digéré par la société de consommation et Hermès va sortir une ligne Barbatruc, une ligne de carré qui va se vendre super bien. Et ils vont faire de l'argent avec. Parce que les réseaux sociaux servent à fliquer et ils peuvent servir à s'organiser. On l'a vu avec au Maroc, on l'a vu récemment dans plein d'endroits. Ils servent à fédérer des mouvements qui se créent, mais comme ça, et personne ne peut les prévoir et personne ne peut lutter. Et en même temps, ils servent à bien savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous consommez? À quelle heure? Pourquoi? Et bientôt, grâce à la domotique, on ira encore plus loin. À quelle heure on se couche? Combien de battements de cœur par minute? Et là, bon, bah là, les assurances vont s'en mêler. Et puis les banques. Bienvenue.
Ouais. Ouais. N'achetez pas de Google Watch, quoi.
N'achetez pas de Google Watch.
Rouge. Ah, elle a un point rouge, là.
Ou la montre, la montre d'Apple. Ouais.
Comment on fait pour écrire un roman à la fois drôle et triste à la fois? C'est effectivement, d'un point de vue stylistique, c'est quelque chose qu'on retrouve. Émilie Yasfontré, voilà, bah, vous dites, votre image de ce désert, c'est des cadavres de bisons d'Indiens, ouais. Et puis en même temps, on rit beaucoup.
Alors ça, je ne pense pas que ce soit du tout un projet. J'ai pas l'impression qu'on se dise, bon, oulala, le sujet est un petit peu lourd, alors mettons un peu de joie. J'ai l'impression que c'est un truc très personnel de caractère. Moi, je suis d'un caractère...
C'est le reflet de vos personnalités.
Voilà, ironique, j'adore lire, j'adore les romans un peu noirs, humoristiques, je suis très sensible à l'humour. L'humour, c'est subtil, c'est un truc qui me plaît dans les rapports sociaux, c'est un filtre que je trouve toujours très doux, qui fait passer plein de choses, qui met les émotions à vif sans être, je trouve, trop intrusif.
À distance, c'est
voilà,
ça.
Il y a quelque chose de respectueux des émotions, je trouve, dans l'humour. Et c'est un peu mon rapport à la vie, ce qui est souvent le cas des gens qui ont qui ont un rapport un peu tragique à l'existence. C'est quand même très, très souvent l'humour qui sert de baume. Donc c'est pas un projet de rendre joyeux une histoire qui l'est pas. Je pense que c'est mon caractère et mon écriture qui veut ça et qui n'était pas spécialement lié au sujet.
On dit que l'humour est la politesse des désespérés. Hein. Voilà. Bah, ouais.
C'est vrai que je pense que c'est pas une démarche active et que ça vient naturellement. Et surtout quand on décide de parler de la comédie humaine, ce qui est quand même souvent le cas, parce que ça peut être un des fils conducteurs, un des fils rouges de nos romans, c'est la comédie humaine, que ça se passe dans une steppe avec des bisons ou pas de bisons, que ça se passe avec une activiste ou sur un plateau de télévision. Tout ce qu'on traque, c'est le sentiment humain, c'est les émotions humaines, c'est la comédie des rapports entre les êtres, parfois un peu tragique, parfois drôlatique. Mmh. Et puis, en tout cas, personnellement, moi, d'en faire une satire, de mettre une loupe grossissante et d'essayer de voir ce qui se passe, c'est un truc qui me vient assez naturellement. Et je trouve que c'est un angle intéressant pour examiner tout ça.
Oui, un livre de combat. Vous avez l'impression d'avoir écrit un livre de combat, Jessica Nelson?
Alors, à certains égards, oui, parce que parmi les thématiques, il y en a une qui me tient vraiment à cœur, qui est le cyberharcèlement. Moi, je suis maman d'une petite fille qui va avoir 5 ans et que je vois manipuler les écrans avec une dextérité qui me fascine. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on protège nos enfants? Moi, je fais partie de la dernière génération qui s'est construite sans tout ça. Et comment est-ce que maintenant, mère à mon tour, je protège ma fille de ces dangers qu'il y a de s'exposer, de tout donner de soi, de se dénuder, puisque c'est une métaphore, hein, je ne vais pas... Et je trouve que c'est vraiment... Et je suis contente de voir qu'on en parle de plus en plus. Je suis contente de voir qu'il y a eu ce documentaire à la télévision sur le cyberharcèlement à l'école. Et je trouve que c'est vraiment important. Alors, c'est pas un livre militant, mais en tout cas, il y a des choses qui me tiennent vraiment à cœur et que j'espérais faire passer par le biais de la fiction.
Et de l'humour, alors Héloïse Tilleroy, l'humour et le désespoir chez vous?
L'humour, oui, mais l'humour, donc la politesse des désespérés. Et pour pas donner de leçons, parce que qui on est pour donner des leçons, mais en revanche mettre les gens, un être humain, c'est quand même magnifique, c'est plein de contradictions dans un seul réceptacle. Et quand on met quelqu'un face à des contradictions poussées au maximum, alors c'est magnifique parce qu'on touche à l'humanité, on touche à ce qui est vulnérable et ce qui émeut. Moi, j'ai été très touchée au moment où Tom franchit. Il va lui-même faire les courses dans le supermarché d'en face. Et j'ai trouvé, ouais, génial, parce qu'il est poussé au-delà de son comble, quoi. Je suis pas encore pour le tien, parce que j'ai pas assez avancé dans l'histoire. Mais c'est ces moments-là où, tout à coup, on vous a présenté quelqu'un avec des limites, des défauts, avec tout ce qui fait qu'il est lui-même, et on le met dans une situation où on sait qu'il va être en grande difficulté. Et quelque part, je pense qu'on le fait avec grande bienveillance. Et du coup, ça nous permet, par l'humour, de... Parce que cet humour vient de la bienveillance. La bienveillance. Bienveillance.
et ensuite, les lecteurs, dans le fond, vous espérez qu'ils reprennent comment le flambeau de vos livres? Parce qu'effectivement, vos trois livres sont des satires, nous invitent à poser un regard, peut-être un petit peu, enfin critique, même, bah, pas un petit peu, même clairement critique sur la société. En même temps, vous nous divertissez, effectivement. Vous nous racontez une histoire marrante, agréable, intéressante. Vous espérez qu'on fasse quoi de ces livres? Comment vous voyez un peu votre rôle d'écrivain dans la société? Est-ce que c'est une question qu'on se pose, Émilie?
Alors, je me suis jamais dit qu'un livre, ce serait une tribune politique pour faire passer telle ou telle idée. Ça n'a jamais, la démarche est toujours une démarche imaginaire au départ. Seulement, j'ai l'impression que c'est quelque chose de tellement intime qui nous ressemble si profondément que moi qui suis totalement, alors, toutes ces histoires de cyberharcèlement, j'ai deux jeunes garçons qui ont 6 et 8 ans et je réalise que je les fais vivre au Moyen-Âge, donc ça leur coûtera probablement une thérapie. Chez moi, on n'a pas de télévision, ils n'ont pas d'écran, ils n'ont pas d'iPad, ils n'ont pas de jeux vidéo, ils n'ont rien. Et quand ils me demandent le soir en rentrant à la maison,
on se revoit dans 4 ans à voir comment elle a réussi. Deux garçons de 10 ans, voilà. Je sais pas comment elle va résister à la
déjà
pression.
Déjà là, en plein Paris, même à 8 ans, même en CE2, là, je réalise que c'est compliqué. Et en fait, non, je me dis juste, peu importe. Ça m'insupporte qu'on me dise, non, mais attends, il faut vivre dans son temps. Non, ça ne veut rien dire. Il faut vivre dans son temps. Chaque année est une année gagnée. Une année où on se fait pas emmerder à l'école, pas harceler, où on profite de chaque heure, c'est une année gagnée pour tout de suite et pour plus tard. Ça m'intéresse pas du tout de savoir. Quand il rentre de l'école, il me disait, il était petit, en moyenne maternelle, grande maternelle, il me dit, maman, Dora l'exploratrice, tu penses que c'est une gentille ou une méchante? Alors je dis, bah écoute, une gentille, je suis sûre que c'est une gentille. Et je me disais, bon, ok, donc je le prive de peut-être une espèce de culture commune qu'on a par génération, de références qu'on a tous ensemble, de trucs qu'on a vus à la télé, bon. Et puis après, moi j'étais une enfant tellement anormale, tellement à côté de la plaque, tellement rêveuse, tout le monde me trouvait totalement folle en fait, que je me dis, ce qui est compliqué, c'est que quand il y a un tel besoin que les choses se ressemblent, les gestes, être sur les mêmes réseaux, avoir la même attitude mécanique de ce dénudement, quoi, qui fait que ces jardins secrets à soi, ce que j'appelle la folie, mais j'ai une façon très tendre de parler de la folie, pour moi c'est l'intimité, c'est tout ce qu'on n'a ni besoin, ni quelquefois la capacité à rendre public, et c'est très bien comme ça. Et on a chacun ça, et on le vit de façon active quand on est lecteur. Moi je suis une lectrice vraiment avant d'être écrivain, et j'ai l'impression qu'écrire, ça ressemble beaucoup à l'écriture. C'est très personnel, c'est très créatif, c'est créer des images, son livre lu ne ressemble qu'à soi et qu'à son livre. Il n'y en a qu'un par personne. Et donc je ne m'inquiète pas du tout d'avoir l'impression d'isoler un enfant, le privant de toutes ses joyeusetés d'écran, de nanan. À l'école, de toute façon, ils participent, enfin bref, ils ont des écrans et tout ça. Je vois bien qu'ils sont, c'est fou comme ils savent se servir d'un écran. Quand je les vois sur un papier comme ça, faire comme ça pour agrandir une image, et je leur dis non, ça ne marche pas, c'est incroyable.
Bon, ça déroute, hein.
Ça déroute beaucoup.
Je peux t'envoyer ma fille en stage?
Oui, bien sûr. Et voilà, et après, je
veux. Camp de redressement, vous voulez dire.
Ce qui est pratique avec ces écrans, c'est que ce sont des vies d'intérieur, même des vies qui sont limitées à un demi-mètre carré et qui sont très statiques.
Mais en tant qu'écrivain, vous y pouvez quoi? Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez influencer?
Mais on y peut plein de choses, parce que je trouve qu'écrire, c'est le contraire de ça. C'est très, très ouvert. Et moi, ces vies qui sont pleines de surveillance et du coup pleines d'obéissance et qui nous obligent à faire des gestes auxquels on n'a pas réfléchi et à écrire des mots et des smileys qui sont très stéréotypés et qui supposent qu'on pense des choses qu'on ne pense pas forcément. Mais il y a vraiment un... Alors moi, je suis très, très en colère avec ça. Je suis très pénible. Je vois bien que je suis un peu radicale dans mon truc. Mais c'est un vrai profond combat. Ça me tient très, très à cœur. Et je ne vois pas comment on peut faire le truc à moitié, parce que je trouve que c'est une violence terrible. C'est très personnel ce que je vais vous dire, mais j'ai un ami dont la fille a été harcelée très très fort, bref, sur un petit site d'adolescents qui s'appelle Ask, et elle s'est défenestrée, et elle est vivante aujourd'hui, mais ça a été absolument terrible, tellement, et ça me met dans un état, j'arrive même pas à en parler, tellement ça m'émeut, me fout en colère. Et donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et je pense que c'est un vrai combat très important aujourd'hui, surtout si c'est pour proposer à la place de ça les 1000 milliards de choses merveilleuses qu'il y a à faire dans une journée et dans une vie.
Donc Jessica Nelson, vous y pouvez quelque chose en tant qu'écrivain, vous pensez?
Je sais pas si on y peut quelque chose, mais et c'est vrai que je rejoins aussi Élise quand tu disais qui on est pour juger, et je pense que dans l'écriture, on n'essaye pas de juger, mais c'est vrai qu'en tout cas, on dit des choses qui nous tiennent à cœur, parce que un livre, c'est aussi un exercice de sincérité, c'est un exercice d'imagination, mais je pense aussi de sincérité, et donc c'est bien de dire les choses. Après, le lecteur ou les gens passeront leur chemin ou prendront quelque chose, peu importe, mais au moins il y a une petite voix quelque part, et là du coup c'est un peu comme
c'est l'inverse de du jeu, de la superficialité des écrans. Un livre, on est forcément dans une démarche totalement intérieure, de remise en question, de déstabilisation.
Moi j'aime bien les livres qui dérangent, et j'aime bien les livres qui vous déboussolent un petit peu et qui effectivement, même si ça change rien derrière, mais qui le temps d'un instant font que paf, vous êtes en face de vous-même et il y a possiblement des questions, possiblement un cheminement qui se fait.
C'est pour ça que vous êtes aussi devenue éditrice. Vous avez lancé les éditions Rue des Saints-Pères.
Alors, les éditions pas Rue des Saints-Pères. On aimerait bien être Rue des Saints-Pères, mais ça viendra peut-être.
C'est déjà très occupé, mais.
C'est vrai, elle est assez encombrée, la Rue des Saints-Pères.
Ouais. Donc, éditions des Saints-Pères, projet éditorial.
Oui, alors en fait, c'est une maison qui a. En fait, on est spécialisé dans la reproduction de manuscrits de grandes œuvres. Et c'est, par exemple, on vient de publier Les épreuves corrigées à la main des fleurs du mal de Baudelaire, enrichi de dessins complètement inédits de Rodin, que personne ne connaissait, que j'ai découvert en faisant des recherches. Et en fait, ma maison, c'est ça, c'est s'inscrire aussi contre les écrans, contre la dématérialisation du livre, et c'est un retour à l'origine de la création. Parce que quand vous contemplez un manuscrit, qui est pour moi une œuvre d'art en soi, on retrouve ce qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, c'est-à-dire les hésitations de l'écrivain, c'est les doutes, c'est les ratures, c'est l'agacement parfois que l'auteur a envers lui-même. Dans le cas des épreuves corrigées de Baudelaire, c'est son rapport à son éditeur, parce que son éditeur, ça fait 6 mois qu'il attend le texte et qu'il en a un peu marre, et que Baudelaire n'arrive pas à lâcher son texte parce qu'il sait que c'est l'œuvre de sa vie. Et donc à partir de là, on lit l'agacement qu'il y a entre l'éditeur et l'écrivain, ce que je trouve vraiment très drôle parce que on connaît. Et c'est vrai que même à tel point que l'éditeur à la fin lui envoie une lettre d'insulte quasiment en lui disant « Mon cher, vous vous foutez de ma gueule ». Le livre, il va jamais être publié à ce rythme-là, c'est impossible. Donc voilà ce qu'on a souhaité faire en offrant au public de passionnés la lecture. Enfin, c'est même pas la lecture. Encore une fois, je pense que c'est une contemplation parce que c'est difficile de lire un auteur à la main. Mais on entre comme ça dans les coulisses de cette écriture. On a proposé aussi, par exemple, l'année dernière, Jules Verne, 20 milieux sous les mers, avec les gravures de l'époque. Et c'est vrai que moi, quand je me plonge dedans, j'ai vraiment l'impression que Jules Verne est là et qu'il est en train de me chuchoter le texte qu'il vient d'écrire. Et c'est très, très particulier comme sensation. Donc voilà, je pourrais vous en parler des heures, mais je suis très heureuse.
Et vous sentez en cohérence totale entre vos activités d'écrivain et celle d'éditrice.
Oui, bah alors après, moi, il y a un fil conducteur dans toute mon histoire, dans mon parcours, c'est l'amour du livre et de l'échange autour du livre. Et c'est vrai que voilà, j'ai fait plein de boulots différents et l'écriture et l'édition, ça fait partie de ce qui m'anime.
Et vous, effectivement, Élise, vous êtes aussi comédienne. Vous avez l'impression de jouer un rôle différent en tant que comédienne, en tant qu'écrivaine? Qu'est-ce qui vous anime quand vous vous mettez derrière l'ordinateur ou d'ailleurs la plume? Je ne sais pas si vous écrivez vos livres à l'ordinateur ou à la plume.
J'écris encore au crayon à papier sur des blocs pour ne justement pas perdre l'idée. L'idée de base, quand une phrase jaillit, si on l'efface sur l'ordinateur, elle est perdue. Bon, parce que je ne suis pas très douée non plus avec les sauvegardes. Mais quand on barre un truc, parfois on y revient parce que l'impulsion originelle est souvent la meilleure. Mais qu'après il faut reformuler, il faut travailler, mais donc voilà, ouais. L'ordinateur pas ouais. Trop.
Alors, vous avez l'impression de jouer un rôle différent en tant qu'écrivaine que
En tant qu'écrivaine déjà je joue tous les rôles, donc ça c'est chouette. me joue les personnages.
On est grand maître.
On est Dieu. Ouais. Non mais C'est vrai que j'ai abordé l'écriture comme j'abordais les personnages. On me donnait un script à lire. Alors il y a tout ce que jouent les autres, donc j'attends la surprise puisque on répète pas quand on tourne. Au théâtre on répète, mais sur un plateau on tourne pas. Donc c'est génial parce qu'on a la surprise et il faut s'adapter. En général, on me donne un script et puis je me dis, ok, ce personnage, il est là, scène machin, scène truc, il fait ci, il fait ça. Et je me dis, je le construis et je commence à construire la totalité du personnage, les bouts qui manquent. Et je me suis aperçue que ce qui marchait le mieux et ce qui me parlait le mieux, c'était de commencer par les défauts. Parce que finalement, réfléchissez-y à propos de votre famille proche, ce qu'on préfère chez l'être humain, c'est les défauts. C'est la première chose qui nous attire, c'est la première chose qu'on reproche. C'est très, très, très étonnant. Et donc, j'ai commencé à construire des personnages comme ça aussi en écrivant. Et vous verrez, ils ont des énormes défauts. Alors, vous ne reconnaîtrez pas forcément les vôtres, mais plutôt ceux de votre voisin, parce que c'est plus commode. Mais vous allez voir beaucoup de voisins dans mes livres. Et ensuite, une fois qu'ils ont des beaux défauts bien partagés universellement, alors on peut y aller, on peut les jouer, on peut les écrire, on peut les mettre dans des situations invraisemblables ou juste les mettre à table, et on sait qu'ils n'auront qu'une façon de réagir à un truc. Et c'est ça qui est fabuleux, parce que là, tout à coup, ils vivent devant vous, et on les a
En fait, imaginé. C'est comme un jeu fabuleux, quoi. J'ai l'impression que vous trois, dans le fond, vous vous amusez aussi beaucoup en écrivant vos histoires.
Moi, je me suis amusée quand même, parce que même si aucun personnage que j'ai pu croiser, animateur de télévision ou chroniqueur, non mais aucun peut se reconnaître véritablement. Mais
il y en a sûrement beaucoup qui se sont reconnus. Hein.
Non, pas tant que ça, parce que vraiment c'est un mélange, un puzzle en fait. Et c'est vrai que c'est là où on s'amuse, c'est qu'on chope un petit bout par-ci, un petit truc par-là, et puis du coup on arrive à construire des personnages quand même. Alors après, non, ce qui me frappe, c'est qu'il y a des gens qui se reconnaissent là où on les a pas mis.
Mais ils se reconnaissent jamais au bon endroit, c'est fabuleux ça.
En fait, non, t'as raison. Hein,
ils reconnaissent toujours le voisin dans les trucs majeurs qui les caractérisent. Ils se rendent même pas compte que c'est de. Ils voient en revanche très très bien que ça pourrait être autrui.
C'est drôle. Je vous propose qu'on passe la parole au public pour d'éventuelles questions, remarques ou d'envie, de tout ce que vous auriez envie de demander à nos trois auteurs aujourd'hui, avant de les retrouver éventuellement plus tard pour des dédicaces. À qui pourrait-on passer le micro pour une question, une remarque? Mesdames, monsieur. Messieurs, pardon. Généralement, on est souvent, effectivement, les lecteurs sont souvent des lectrices. Monsieur, le micro est ouvert. Hein.
Eh bien, pour des écrivaines qui n'osent pas s'exprimer, je trouve que vous exprimez très bien toutes les trois.
Merci. C'est vrai, finalement,
Merci.
Vous êtes bien guéries.
On essaye de s'en sortir malgré ce que décrivait très très bien mademoiselle, les smileys, tous ces trucs-là, c'est une catastrophe parce que c'est un appauvrissement considérable. Quand on manque de mots, on ne peut plus préciser une pensée.
Je reconnais, j'avoue, il y a ce petit smiley qui évoque un clin d'œil. J'ai remarqué que quelquefois, quand on connaît mal les gens et qu'on a peur que ce soit mal interprété, je trouve qu'il n'y a aucun équivalent, à part écrire de façon très lourde, entre parenthèses, je plaisante, ne prenez pas ça au premier degré. Et il y a quand même un côté, je trouve, pratique et pas tout à fait inutile à ces petites bêtes.
Mais c'est vrai que pour rebondir ce que dit monsieur, j'imagine qu'avec l'habitude, vous êtes très à l'aise dans les échanges et la promotion quand même.
Bah non, pas forcément.
Pas du tout.
Bon, alors vous donnez très bien le change. Merci beaucoup, mesdemoiselles.
Bah, merci à vous.
Merci.
Merci.
Voilà. Quelqu'un d'autre? Si c'est pas le cas, donc effectivement, je vous invite à retrouver les livres de nos trois auteurs sous la tente, avec les livres pour des dédicaces. Et puis, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et merci beaucoup, Jessica Nelson, Liz Tilroy, et puis Émilie de Turckheim. Bonne journée.
Merci.
Merci à tous.